Bonjour à tous. Étant donné que je dois vous retrouver ce dimanche prochain, et puis ensuite dimanche en 15, c'est une joie. J'espère que pour vous c'est la même chose. Avoir trois fois de suite le même orateur, c'est peut-être pas toujours souhaitable, mais c'est ainsi. Alors du coup, j'ai pensé commencer une série d'un enseignement un petit peu plus systématique. Donc aujourd'hui, on va voir la régénération et baptême du Saint-Esprit, savoir ce que Dieu nous donne, ce que Dieu accomplit dans nos vies, ce que Dieu fait lorsqu'on se tourne vers lui pour être sauvé. Et puis dimanche 10, donc dimanche prochain, on verra ce qu'est la plénitude de l'Esprit, vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Et nous verrons que c'est le standard normal de la vie chrétienne, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est absolument indispensable. Et puis le 17, dimanche 17, nous verrons comment vivre, comment se maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces différents thèmes? C'est parce qu'ils représentent, dans ce qu'on appelle la doctrine biblique, ou la saine doctrine, ils représentent toute la force de ce que Dieu nous accorde pour vivre en tant que chrétien, et c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés, que nos péchés sont pardonnés, que nous possédons la vie éternelle, que nous appartenons à Christ. C'est donc très important d'avoir cet enseignement ou de se le rappeler. D'abord, le Saint-Esprit, qui est-ce? Alors le Saint-Esprit, il a une personnalité, c'est une personne. L'Esprit n'est pas simplement une puissance. Hein, il y a des versets comme dans le chapitre 1 du livre des Actes, vous recevrez une puissance. Alors certains disent, le Saint-Esprit c'est une puissance. Mais on va découvrir que pour autant que le Saint-Esprit est une puissance, à l'image de Dieu le Père et de Dieu le Fils, eh bien c'est une personne. Pourquoi? Parce que l'Écriture lui attribue une personnalité distincte, comme elle le fait pour le Père et pour le Fils, dans le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, au verset 19, il est dit, Jésus envoie ses disciples et leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, on voit là une personnalité distincte du Père et du Fils, et néanmoins, Dieu, les trois personnes étant le Dieu unique. Ensuite, dans le grec, c'est intéressant de souligner que le pronom personnel masculin est toujours employé à son sujet, donc on entend toujours parler de « le Saint-Esprit hein, », bien qu'en grec, le mot « esprit » soit au neutre. Donc normalement, il n'y a pas d'article avant un neutre en grec, et là pourtant, le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Saintes Écritures, a pris soin de faire employer, donc avant son nom, ce pronom personnel. L'esprit est doué de pensée, de connaissance, de langage et de volonté, qui sont les attributs d'une personne. Une puissance ne va pas penser. Le vent, lui, est une puissance capable d'arracher des arbres et d'autres choses, mais il ne pense pas. Par contre, le Saint-Esprit, lui, est doué de pensée, comme nous allons le voir, de connaissance, comme une personne, de langage et de volonté. En Romains, chapitre 8, verset 27, nous lisons « Celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit » avec un E majuscule. Donc le Saint-Esprit a une pensée. Vous connaissez ce passage, nous nous exprimons par des, nous ne sachant plus comment prier, nous soupirons par des prières, des soupirs inexprimables. Et donc Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit et qui sonde les cœurs, bien sait ce que le Saint-Esprit veut exprimer au travers de nous. Ensuite, en 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 10 à 13, il est dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. On comprend les choses que les hommes créent ou pensent, parce qu'on est comme eux, on a le même esprit. On peut rentrer dans le raisonnement d'un être humain. Alors qu'en ce qui concerne Dieu, il est dit, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit nous enseigne. Si vous et moi, nous comprenons la Bible et que nous arrivons à pénétrer dans la pensée de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans la relation avec Dieu, si nous arrivons vraiment à développer cette intimité avec notre Créateur, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous et nous permet de pénétrer vraiment la pensée de Dieu. Alors que humainement parlant, je ne sais pas comment vous étiez avant de naître de nouveau, mais on pouvait lire la Bible, en parler sans véritablement connaître son auteur, ni même le Créateur dont il est question et le Sauveur. Ensuite, le Saint-Esprit est doué de volonté, comme une personne. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il est dit « Un même et seul Esprit opère toutes ces choses » au sujet des dons qui sont distribués dans l'Église, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le Saint-Esprit est souverain dans la distribution des dons qu'il accorde à ses enfants, aux enfants de Dieu. Et puis on se rend compte dans les Saintes Écritures qu'on peut traiter le Saint-Esprit comme une personne. On peut lui mentir, on peut le tenter, on peut lui résister, on peut l'attrister, on peut l'outrager. Par exemple, Pierre, dans le livre des Actes, quand il rencontre Ananias et Saphira, vous savez, qui ont vendu un champ, qui ont raconté qu'il avait vendu une certaine somme, alors que c'était pas vrai. Pierre, quand Ananias se présente, Pierre lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? En Actes chapitre 5, verset 3. Et quand son épouse, plusieurs heures après, se présente devant les apôtres, Pierre lui dit, donc à cette femme, j'appelle Saphira, « Comment vous êtes-vous accordés, c'est-à-dire ton mari et toi, Ananias et toi-même, pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Donc on ne peut tenter qu'une personne. Et puis, Étienne, dans sa prédication, juste avant d'être le premier martyr de l'Église apostolique, en Actes chapitre 7, verset 51, s'adressant aux Juifs qui l'écoutent, en présence de Saul de Tarse, hein, qui va devenir l'apôtre Paul, hein, qui lui gardait les vêtements d'Étienne, il est dit « Homme, Étienne dit « Homme au courroide ou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, c'est-à-dire incapable de comprendre quoi que ce soit des choses de Dieu, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Donc, vous vous opposez à la personne du Saint-Esprit. Et puis, en Éphésiens, chapitre 4, verset 30, l'apôtre explique comment on peut être amené à attrister le Saint-Esprit. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dit-il, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est comme chacun d'entre nous, une personne extrêmement sensible. Et nous pouvons, de la même manière que nous sommes attristés par certains comportements de nos semblables, ou de nos frères et sœurs en Christ, ou des membres de notre famille, nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos attitudes, nos pensées, notre façon d'être. Pourquoi? Parce que c'est une personne comme vous et moi, à la différence que c'est le Saint-Esprit, donc c'est Dieu, mais sensible comme vous et moi. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 29, il est dit de « Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, c'est-à-dire le Saint-Esprit ?» D'autre part, les Saintes Écritures nous font voir que le Saint-Esprit enseigne, il témoigne, il convainc, il conduit, il entend, il parle, il annonce. C'est véritablement une personne. Il est dit en Jean chapitre 14, verset 26, Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc les propos et les écrits des apôtres, qui sont donc les auteurs humains des Saintes Écritures, sont la démonstration justement de ce que le Seigneur lui-même avait annoncé avant de mourir sur la croix et de ressusciter. Il dit « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est pour ça que vous et moi, lorsque nous témoignons et que nous n'avons pas notre Bible avec nous, il y a des versets bibliques qui se présentent à notre mémoire. Il y a des choses qui nous sont en quelque sorte accordées, une forme d'inspiration de la mémoire, hein, de ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Et c'est surprenant quand nous témoignons, des fois on se dit « Tiens, j'avais jamais pensé pouvoir dire ça et pourtant je l'ai dit. » C'est ce que Jésus a pu dire à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire quand vous paraîtrez en jugement. » Le Saint-Esprit vous donnera les paroles qui y conviennent. Et c'est valable pour nous, si je me permets de vous partager cet enseignement biblique, c'est que ce qui a été valable pour les apôtres est valable pour nous au niveau de cette intimité avec Dieu. C'est le même Esprit Saint qui nous habite et qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte et que nous avons reçu à notre conversion, le jour de notre conversion comme nous allons le voir. En Jean chapitre 15, verset 26, le Seigneur dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et le verset va plus loin, il dit « Et vous-même vous rendrez témoignage de moi. » C'est donc le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous visite, qui nous rend enthousiastes pour partager notre foi. Et puis, avant-dernière référence, en Jean 16, verset 8, « Quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et dernier verset en ce qui concerne ce sujet, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Vous voyez les caractéristiques du Saint-Esprit qui sont les caractéristiques d'une personne. C'est pour ça que nous-mêmes, quand nous discutons avec des différentes personnes et qu'elles nous enseignent quelque chose qui ne correspond pas à l'Écriture sainte, on est tout de suite en alerte. Parce que le Saint-Esprit à qui nous appartenons, qui nous a été donné au jour de notre conversion, eh bien, nous avertit, nous met en état d'alerte, parce que on se dit non, c'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que les Saintes Écritures enseignent. Évidemment, comme vous le savez, les textes qui parlent de la personnalité de l'Esprit Saint affirment en général aussi sa divinité. Il possède les attributs divins d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence et d'éternité. Et ça, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 2, des versets 10 à 11. Régénération et baptême du Saint-Esprit. La régénération, c'est un mot synonyme de la nouvelle naissance, hein, synonyme de la nouvelle naissance. C'est la réception, en réalité, de la vie nouvelle en Christ. Non seulement, comme vous le savez, Dieu nous justifie, pardonne nos péchés en Jésus-Christ, mais il ne s'arrête pas là. Si on était simplement justifié sans avoir reçu une vie nouvelle pour vivre en conformité avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie comme Christ en a vécu une sur cette terre, on serait les plus malheureux des hommes. La régénération, c'est la réception, en plus de la justification, de la vie de Christ dans nos corps mortels. Et cela, évidemment, intervient par le baptême du Saint-Esprit. Dans le fond, la régénération ou nouvelle naissance, c'est la résurrection spirituelle qu'opère le Saint-Esprit dans le cœur du pécheur au moment où celui-ci met sa foi en Jésus-Christ. Il se produit quelque chose de prodigieux quand on place notre foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Dieu vient habiter en nous, Dieu le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. De la même manière que pour témoigner de notre foi nouvelle, Nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons donc par ces éléments physiques, l'eau, nous avons exprimé une vérité, une expérience invisible par justement ce baptême d'eau. On rentre dans l'eau et on en ressort, on rentre en s'identifiant à Jésus-Christ en sa mort, on ressort de l'eau et on s'identifie à sa résurrection. Donc le baptême d'eau est l'expérience visible et le témoignage visible d'une expérience invisible. Le baptême d'eau suit la nouvelle naissance. Le baptême d'eau ne précède jamais dans les Saintes Écritures le baptême du Saint-Esprit. C'est parce qu'on est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qu'on passe par le baptême d'eau pour témoigner notre foi nouvelle et notre engagement envers Christ. Jésus va dire à Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il n'y a pas de possibilité d'être sauvé si nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne pouvons pas prétendre être des chrétiens bibliques sauvés, ayant la certitude d'avoir reçu la vie éternelle, si nous n'avons pas été baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'entrée dans la vie nouvelle, c'est l'entrée pour être immergé dans le corps de Christ, pour être enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu. Le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu nous fait membres du corps de Christ. L'Esprit saisit le pécheur repentant et l'immerge en Jésus-Christ. Quand on demande pardon à Dieu, parce qu'on a compris qu'on est perdu, qu'on est pécheur, qu'on est devant Dieu coupable, on demande pardon à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous immerge en Jésus-Christ, il vient habiter en nous, et c'est pour ça qu'on reçoit la justification de nos péchés, la vie éternelle, la certitude du salut. On sait qu'on est un enfant de Dieu, on appartient au corps de Christ, et ce pour l'éternité. Il est bon de se souvenir de ces choses parce que c'est sur ces vérités fondamentales que nous allons pouvoir construire notre vie chrétienne jusqu'à ce que nous paraissions dans la gloire, en présence du Sauveur. Donc l'Esprit, le Saint-Esprit saisit le pécheur repentant et l'immerge en Christ. Il l'unit désormais au Christ, qui est le chef de l'Église, et aux autres membres du corps. C'est pour ça que Paul va dire dans la première aux Corinthiens, le verset qui nous a été lu tout à l'heure, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, l'apôtre se met au rang de tous les autres, se met au même rang que nous. Il dit « Nous avons tous ». Il s'intègre dans ce tous. Et il s'adresse à tous les chrétiens de Corinthe qui pourtant ne sont pas des exemplaires dans bien des situations. Il leur dit « Nous avons tous en effet été baptisés », c'est au passé. Nous avons été baptisés, quelque chose d'accompli, dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors c'est remarquable cette phrase qui est un des points de doctrine les plus importants. C'est que l'apôtre dit, mais il y a un seul Saint-Esprit dans lequel nous avons tous été baptisés et nous sommes tous abreuvés au même esprit. Ça. Je dis cela parce qu'il y a des courants de théologie dans le monde évangélique qui nous disent, oui, vous êtes sauvés, vous avez reçu l'Esprit de Christ, mais vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Là, c'est des théologies pentecôtistes, par exemple, ou charismatiques. Mais c'est impensable, parce qu'on est tous baptisés du même Esprit, il y a un seul Esprit Saint, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit, il y a un seul baptême, un seul Esprit, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Sauveur. Ça, c'est une déclaration fondamentale de la foi. Et puis, quand un ami qui pense autrement que moi me dit, mais non, Jean, il te manque quelque chose, je lui dis, je suis désolé, on est tous abreuvés au même Saint-Esprit, je suis désolé, on boit tous à la même source. Alors, c'est très intéressant de voir comment Dieu clarifie et nous enseigne avec précision, avec clarté, simplicité, mais force. C'est ce qui va nous permettre à nous, chrétiens, aujourd'hui, de vivre justement dans cet enthousiasme relationnel avec Dieu, parce qu'on sait ce que Dieu a accompli dans nos vies, la Bible nous l'enseigne et en témoigne. Ce baptême, donc, est pour tous, comme je vous le disais. Selon Paul, il est un fait déjà accompli pour les croyants. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Même pour ceux de Corinthe, qui étaient encore si charnels, c'est-à-dire si peu spirituels. Et Paul va pouvoir leur dire au chapitre 3 de l'Épître aux Corinthes, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Nous sommes des saints. Dans le sens biblique du terme, c'est que nous avons été mis à part pour servir Dieu sur cette terre et mis à part pour le jour de la rédemption. Quand nous allons mourir, nous n'irons pas n'importe où, nous allons aller en présence de Dieu dans le paradis. Nous sommes saints, mis à part. Et puis en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, alors que l'apôtre est obligé de traiter un point délicat, dans certains Corinthiens avaient des relations sexuelles avec des prostituées divines, en quelque sorte, qui rendaient des cultes à des faux dieux. C'est ce qu'on appelle la prostitution spirituelle dans quelques cultes anciens. Paul est obligé de dire aux chrétiens de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà donc la doctrine sur le Saint-Esprit qui nous affirme que Dieu habite en nous par son Esprit Saint et en même temps que le fait que Dieu habite en nous par son Esprit Saint, que nous sommes nés de nouveau, sauvés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, ce qui est la définition même de ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui sert son maître. Et donc, nous avons dans ces versets l'affirmation de notre naissance spirituelle, de notre régénération, de notre nouvelle naissance, et en même temps l'affirmation de notre appartenance. Le propriétaire de nos vies, c'est Dieu. C'est plus simplement nous, comme si nous n'étions pas sauvés, comme si nous n'étions pas chrétiens. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de collègues, de voisins qui me disent, mais ma vie m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps, etc. Mais non, pas le chrétien. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, car nous avons été glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est effectivement ce que nous verrons dimanche prochain, Dieu voulant, la possibilité de vivre ce que la Bible appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'expression dans nos corps mortels de cette vie nouvelle. Alors voyez combien la doctrine biblique est importante pour équilibrer, nourrir nos pensées, équilibrer et approfondir notre foi, et nous permettre de pouvoir résister à toutes sortes de courants, de pensées, de théologies, pour dire non, voilà ce que Dieu a accompli dans ma vie, voilà pourquoi je suis heureux, sûr de mon salut, pourquoi je peux affirmer que je possède la vie éternelle, et pourquoi je me donne à Dieu, voilà, parce que je lui appartiens, et ce pour l'éternité. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous, et puis à dimanche prochain pour ce deuxième thème, la plénitude du Saint-Esprit selon les Saintes Écritures. Amen.